Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Notre Bible, s'il vous plaît, et nous allons peut-être rester dans l'esprit de ce que nous avons chanté il y a un instant, « Mets quelque chose de nouveau dans mon cœur ». Et peut-être justement devant des situations qui ne sont peut-être pas simples dans la vie des enfants de Dieu. Et nous allons voir donc une première lecture dans l'Ancien Testament, ça se situera notre méditation. Écoutez, on va prendre 1 Samuel, chapitre 21. Alors, 1 Samuel, chapitre 21. Et un tout petit passage. Et ensuite, nous nous reporterons dans le livre des Psaumes. Voilà, je fais le rappel de la lecture. 1 Samuel, 21, verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül, c'était le roi d'Israël. Il arriva chez Achis, roi de Gath. Les serviteurs d'Achis lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achis, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux, et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achis dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison. » Alors peut-être avez-vous déjà lu cette histoire de David, et là on ne le reconnaît plus le roi d'Israël. Enfin, le futur roi d'Israël, le David du livre des Psaumes, ce David qui, là, eh bien, se comporte en insensé. Vous avez certainement, eh bien, relevé avec moi les mots qui sont dans ce petit condensé, dans ce petit passage. Il est parlé de fuite. David s'enfuit. Il est parlé également qu'il a eu, il a éprouvé une grande crainte. Il a été pris de folie. Il est fou. On dit de lui qu'il est fou, David. Il fait des extravagances, c'est-à-dire qu'il va se livrer à des choses qui sont complètement insensées. Et on dira également qu'il a perdu la raison. Alors, vous allez me dire, mais comment? Comment se fait-il que David, l'homme de la foi, l'homme qui est sage aux yeux de Dieu, qui est appelé aussi l'ami de Dieu, en arrive là. Vous n'avez pas certainement passé sur le fond de cette histoire. Il y a un problème qui est soulevé, c'est que dans cette histoire, dans cette partie de la vie de David, il a un gros problème, qui est son problème, qui est le problème de tous les hommes, de toutes les femmes, dans tous les temps, à travers tous les siècles, c'est la frayeur. Alors je voudrais vous parler de la frayeur. Il y a une graduation naturellement. Il y a ce qu'on pourrait appeler le tracas, il y a les soucis, il y a les inquiétudes, il y a les peurs, il y a la panique, il y a l'épouvante, il y a la frayeur. Alors là nous voyons David, l'homme de Dieu, vraiment pris dans une situation, impossible. Et vous savez qu'on dit souvent la peur est mauvaise conseillère, elle est inspiratrice pour nous faire des folies. Au lieu d'aller dans le bon sens, parce qu'on a peur, on fait des choses complètement insensées. Et David, en se livrant à un genre de, un simulacre de folie, nous voyons qu'il espérait à ce moment-là, lorsque il fuit le roi Saül, qui n'est autre que son beau-père, et qui veut le tuer depuis des années, parce qu'il sait que David va bientôt prendre sa place, de par la volonté de Dieu. Alors il fuit de la Judée, de Jérusalem, et il n'a pas d'autre occasion, d'autre possibilité que de s'enfuir chez les ennemis d'Israël, c'est-à-dire les Philistins. Et là, il va se présenter devant le roi Achis, et il va arriver complètement fou. Il va faire le fou devant le roi. Et parce que, tout simplement, il s'était dit qu'il changerait peut-être l'attitude de ses ennemis philistins, tout simplement, qui avaient peur de David. Et ils avaient raison d'avoir peur de David et d'avoir David chez eux, parce que c'est quand même David qui avait coupé la tête à Goliath. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ? Goliath était de Gath. Donc on se retrouve exactement dans la même configuration. Et le roi, certainement Achis, se souvenait que c'était David qui avait coupé la tête à son joker, hein, dans la guerre. Et que finalement, quand il voit arriver, il se dit, mais je suis pris d'un côté, je suis pris de l'autre, que ce soit le roi d'Israël ou que ce soit le roi des Philistins, ils vont me mettre à mort. Et à ce moment-là, il va simuler une folie parce qu'il a peur de mourir. Ouais, il a peur de mourir et il pense changer la crainte de ses ennemis en pitié. Et on va voir comment les choses vont se dérouler. À tel point qu'à un moment donné, le roi Achis va dire, « Qu'est-ce que vous m'amenez des fous ? Moi, j'en ai suffisamment chez moi, des fous. » Les fous, il y en a partout, hein, ça c'est clair. Il me dit, « Mais pourquoi vous me l'amenez ?» Alors on lui a dit, « Mais c'est parce qu'il s'est réfugié. Il demande asile. Il demande ta protection, etc. » Et à un moment donné, le roi lui dira, « Mais de toute façon, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein, qu'il entre, je ne veux pas qu'il rentre dans ma maison. » Ce qui veut dire qu'il ne lui a rien fait à David. Mais il l'a renvoyé. Il lui a dit, « Maintenant, tu vas où tu veux. Je ne veux plus te voir. » Et cette histoire, finalement, on la retrouve quelques années plus tard dans ce psaume. Le psaume 34 que nous allons maintenant lire et poursuivre. Et c'est justement en faisant référence à ces moments de frayeur, ces moments d'épouvante qui a bouleversé la vie de cet homme de foi, ce croyant hors pair. Et il va le raconter, il va l'écrire dans un psaume, psaume 34, et je lis ceci, quelques phrases. De David, psaume de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Achis, hein, c'est Abimélech, c'est le titre royal des Philistins, mais le nom était Achis, hein, donc, et qu'il s'en alla chassé par lui, je bénirai, dira-t-il, l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Voilà ce que David a écrit après son expérience quelque temps plus tard et qui lui a causé autant d'effroi, autant de bouleversements, autant d'émotions, dans sa vie. Je pense que les uns et les autres, heureusement, nous ne connaissons pas, j'espère, la crainte en permanence. Il y a des gens dans notre monde qui vivent la crainte en permanence, qui ont peur de tout. Peur de vivre, peur de mourir, peur de l'accident, peur de l'incident, peur que quelque chose arrive, aux membres de leur famille, peur de perdre son travail, peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour finir le mois. C'est pas une vie, hein, d'avoir peur. C'est terrible. Et c'est pourtant quand même la réalité de la nature humaine. La première émotion que l'homme a rencontrée dans le jardin d'Éden après avoir trahi, on pourrait dire, ce pourquoi Dieu l'avait appelé, c'est tout simplement la peur. Adam répondra à Dieu, j'ai eu peur, c'est pourquoi je me suis caché. En d'autres termes, si vous voulez, j'ai eu peur, c'est pourquoi je me suis enfui. Enfui devant quoi ? Est-ce que nous nous battons contre des spectres, contre des fantômes, ou est-ce qu'il y a véritablement une réalité ? Alors j'aimerais brièvement ce matin faire une petite analyse de ce que nous pouvons ressentir et que nous méprisons, que nous ne maîtrisons pas. Parce que s'il y a un sentiment qui est difficile à en connaître les tenants et les aboutissements, c'est bien justement la peur et tout ce monde qui va avec. La peur, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qui vous frappe, c'est quelque chose qui vous fait tomber, C'est quelque chose qui vous rend fou. On l'a vu il y a un instant. Et je pense que ce que nous avons besoin de comprendre, c'est qu'il nous faut, les uns et les autres, eh bien, recourir à cette arme dissuasive, à cette arme préventive protectrice qu'est la foi. On comprend ? Il nous est dit que la foi bannit la crainte. Et ça, c'est écrit dans la Bible. C'est véritablement ce que Jésus dit à chaque instant devant ceux qu'il rencontre. Ne crains point, crois seulement. Alors, j'aimerais donner quelques précisions parce que on peut être fort dans certains moments, même des moments de crainte, puis il y en a d'autres, on est quelquefois très faible. Alors, on va pas en arriver peut-être comme David, qui était en train de faire des marques sur le bois des portes, hein, et il en était rendu, faire des extravagances, il en était même à baver, vous rendez compte, dans sa barbe. C'est terrible une chose pareille. Pour le David, qui était le vaillant héros de Dieu, qui était capable de saisir l'ours et puis le lion, qui était capable d'affronter 10 000 contre lui, et là, finalement, eh bien, il a perdu pied. Comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Ça vous est arrivé d'avoir des grandes frayeurs dans votre vie ? C'est quelque chose, hein. On a eu le spectacle, enfin en tous les cas, on a eu le commentaire, pour le moins, de ce bateau qui a complètement chaviré là sur les côtes de l'Italie d'une manière tellement étrange et à la fois stupide que les gens qui sont sortis et qui ont donné quelques témoignages, quelques commentaires de leur vécu, ils ont dit mais c'est affreux, hein, parce qu'à ce moment-là, les gens ne respectent plus rien. Ils s'écrasent les uns les autres, à qui, sauf qui peut, hein, c'est tout. Hein. Ça s'appelle de la panique. Et quelquefois, on peut être fragilisé par toutes sortes de circonstances. Quand on est malade, eh bien, c'est plus difficile. Hein, c'est difficile de se maîtriser dans notre pensée et dans notre cœur, de dire, eh bien voilà, il y a tel danger, je le regarde en face, et je vais m'en sortir. C'est pas toujours aussi évident. Hein. D'ailleurs, on rassure continuellement, à commencer par les enfants. N'aie pas peur, papa, maman sont là, vous comprenez ? Et on pourrait dire aujourd'hui pour les enfants de Dieu, mais n'aie pas peur, le Seigneur est près de toi. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. L'aurais-tu oublié, ça ? Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Alors, que peut me faire un homme ? Alors, vous connaissez tout ça. Je voudrais dire d'abord, pour essayer un petit peu notre histoire, c'est que Dieu a fait de sa créature, c'est-à-dire l'homme, eh bien, là, un être doué de raison et de sentiment. Eh oui. C'est bien quand même la différence que nous sommes des êtres supérieurs au monde animal et puis tout le reste de cette création de Dieu. Donc, nous avons la raison et nous avons le sentiment. La raison, ben, on sait ce que c'est, hein, ça fait partie aussi de notre intelligence. Mais combien tout cela est fragile ? Oui, on peut perdre la raison. David avait perdu la raison. Et puis, il y a également le sentiment. Ça, c'est une particularité de notre humanité, et quelquefois nos sentiments nous jouent des mauvais tours. On croit voir des choses qui n'existent pas, et puis quelquefois nous sommes tout à fait aveuglés sur des situations qui sont des réalités. Alors parce que nous sommes des êtres humains, eh bien nous pouvons réfléchir sur des problèmes, et nous faisons appel à la raison. Qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je me comporter? Ceci, quel chemin prendre, etc., etc. Et lorsque nous pensons raisonnablement, eh bien, nous envisageons des solutions. Et certainement, pour l'enfant de Dieu, les meilleures solutions que nous pouvons envisager, c'est d'y associer le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des choses logiques, il y a notre expérience, il y a toutes sortes de positionnements que la vie nous a apprises. Et puis, on envisage des solutions, mais toujours avec le Seigneur. Hein ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu, puis le reste vous sera donné par-dessus. Bien sûr, nous sommes impliqués dans tout cela, mais la priorité, c'est le Seigneur. Et puis, nous pouvons donc également, eh bien, pressentir différentes issues. Il y en a des bonnes et des mauvaises. Et quand on est dans un état normal, quand on est dans une position raisonnable ou raisonnée, alors cela nous conduira vers des issues qui seront des issues bonnes, des issues qui seront, eh bien là, une bénédiction. Je dirais que la peur est une des composantes, si je peux m'exprimer ainsi, de notre affectivité. Souvent, c'est pas toujours la raison hein, qui mène la route, hein, qui nous indique le chemin. C'est souvent ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire notre cœur. Et cela fait appel, naturellement, eh bien, à nos sens. Hein, que ce soit ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous goûtons, accessoirement, ce que nous touchons. Voilà donc cinq sens qui sont en fonctionnement et quelquefois qui interfèrent et font des, comment dire, des courts-circuits avec tout simplement notre affectivité. Et c'est notre cœur qui parle à ce moment-là. Alors on s'aperçoit que on en fait l'expérience un jour ou l'autre. Parfois c'est de moindres conséquences, quelquefois c'est beaucoup plus grave. La peur, fondée sur l'existence d'un danger extérieur réel, physique, est une peur salutaire. Je vais vous donner un exemple, vous allez le comprendre. Alors il y a d'abord la loi, je pense du code de la route. Quand on nous dit « faut s'arrêter au rouge », c'est plus convenable, c'est raisonnable, autant pour nous que pour les autres. Et il y a toutes sortes de précautions qui sont là, que nous prenons tous les jours, parce que nous savons qu'il y a derrière, finalement, un grand panneau sans interdit, et nous réagissons par la peur. Mais heureusement, c'est bon signe, parce que il y a des fous, excusez-moi, des fous qui nous semblent raisonnables et qui passent toutes les barrières. Et ça, c'est quelque chose de terrible dans notre monde. Donc, les choses fonctionnent. De cette manière, il y a une peur salutaire. Et c'est grâce à cette peur salutaire que nous évitons les coups, les accidents, que nous évitons également les brûlures. Vous savez, combien de fois nous l'avons dit à nos petits-enfants, attention, ne mets pas la main. Voilà. Et ils y vont quand même, parce qu'ils veulent voir comment ça fait. Et après, ils ont compris pour la vie. Ils ont compris pour la vie. Et puis, il y a des autres dangers qui sont là à jalonner toutes nos journées, tous nos jours. Et ça fonctionne de cette manière. Et puis, la peur est un sentiment, et comme telle, elle est une source d'énergie. Oui, il y a une force dans la peur. Elle donne l'impulsion de réagir et d'accomplir certaines choses. Quelquefois, par motivation, parce que nous avons une peur, eh bien, nous allons nous porter en avant. C'est la peur, quelque part, qui va être pour nous motiver. À la notion de peur, nous pouvons ajouter naturellement celle d'effroi, quand ça prend des proportions au-dessus. On pourrait parler de la peur-timidité également. Il y a des gens qui sont timorés, qui n'osent pas en public, qui n'osent pas dans certaines circonstances, et à vrai dire, ce sont des gens qui sont malheureux, et qui sont toujours malheureux. Et vous savez que quand Paul nous écrit cela à Timothée, il dit « Mais Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, de crainte et de timidité, mais il t'a donné un esprit de sagesse et un esprit de hardiesse, un esprit d'audace, par la foi naturellement. » Et puis, quand on dit qu'on a le trac, je suffoque parce que là je dis « Mais comment vais-je pour démarrer à parler ?» c'est toujours une appréhension. Puis il y a la panique, il y a la terreur, il y a l'horreur, et puis toutes sortes de choses. Moi, j'ai jamais compris que nous sommes dans un monde où on donne comme nourriture morale des films d'horreur et tout ça, comme s'il y avait quelque chose d'agréable. Enfin, vous savez, non, mais il y a des gens qui aiment ça. Ils se familiarisent avec ça. Ils s'endurcissent avec ça. Et c'est terrible, parce que je crois que ça dénature un peu, finalement, l'être intérieur. Alors, c'est vrai qu'il y a des expressions qui nous montrent bien la condition des hommes d'une manière ou d'une autre. On dit qu'une personne a peur, qu'elle est effrayée, elle est alarmée, elle est nerveuse, elle est bouleversée. Et pourtant, Jésus nous laisse une petite parole sibylline qui nous montre bien. Il nous dit ceci, « Croyez en Dieu et croyez en moi et que votre cœur ne s'alarme point. » Jean, chapitre 14. Et ça, ce sont les mots qui viennent pour nous, particulièrement chrétiens. Alors, on va voir une différence qu'il y a entre à faire, comme ça nous aidera peut-être à mieux comprendre nos réactions et à nous confier d'autant dans le Seigneur et dans ses promesses. La différence, nous allons la faire entre finalement ce terme générique qu'est la peur et puis l'inquiétude. Qu'est-ce que la peur et qu'est-ce que l'inquiétude? Jésus nous parle de la peur et Jésus nous parle aussi de l'inquiétude, il en met aussi en parabole. L'inquiétude est simplement un sentiment d'appréhension, de tension, de stress, finalement, et qui, quelque part, crée en nous un malaise. Il y a des perpétuels inquiets. Et ce sont des gens qui ne vivent pas pleinement la vie comme elle doit se vivre. Alors ils sont là, je sais pas, ils ne pourront peut-être pas expliquer pourquoi je suis inquiet. Pourquoi suis-je dans cet état? Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive quelquefois. Ce sont des choses qui viennent nous prendre, qui viennent nous occuper. C'est comme une occupation, vous comprenez, étrangère. parce que nous sommes appelés à vivre dans la paix de Dieu, la paix de la foi. Et ça nous tient comme ça, et ça crée un malaise. Et souvent, ce sentiment, quelque part, ne s'appuie sur aucune preuve logique, sur aucune preuve sensée. On s'inquiète, on ne sait pas pourquoi, c'est dans l'air. Ouais. Et aujourd'hui, la constante de notre société occidentale et moderne, il semblerait que ça soit ça. Hein. L'incertitude de l'aujourd'hui, et surtout l'incertitude du lendemain. On est en train d'exploiter la chose à fond en ce moment, dans cette année 2012, où il y a certainement des échéances, et puis des grands bouleversements à venir. Bon, la Terre, je voudrais vous dire, on en a toujours connu, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. On n'est pas né avec ce jour, on n'est pas né avec ce monde, hein. Eh bien, les gens qui ont vécu. Et il me semblerait que, quelquefois, à travers tout ce qui nous est donné par les médias, il semblerait qu'il y ait un fonds de commerce, là, à essayer d'agiter tout ça et à mettre les gens dans le malaise. Ouais. Voilà, c'est ça. Et les gens sont pris de folie aussi, hein. On en voit et on en entend des choses, on se dit, mais c'est abominable ce que l'on peut nous rapporter tous les jours. Mais comment les gens se livrent à de telles choses? Comment se fait-il qu'ils passent toutes les barrières? Alors, ce malaise, il est là. Et on s'aperçoit que on essaierait de pouvoir, eh bien, y apporter une raison, quelque chose de logique, on ne le comprendrait pas. Alors, cela engendre un sentiment de danger permanent. Comprenez? On est sur le qui-vive. C'est pourquoi les gens sont nerveux. C'est pourquoi ils ont des réactions violentes. C'est pourquoi ils ont quelquefois des mouvements ou des paroles, hein, d'agressivité. C'est terrible, cela. David vivait ça, hein, dans notre texte. Lui, il était fugitif depuis des années. On voulait lui couper la tête des deux côtés, vous comprenez? Autant du côté de Jérusalem avec le roi Saul, et puis autant de l'autre côté avec le roi Achis. Il était complètement, finalement, eh bien là, dans cette période. C'était quelque chose de difficile. On peut le comprendre un petit peu. Danger imminent, un danger permanent. La peur, elle, est une réaction émotive, consciente d'un danger réel, ou du moins qui semble être réel pour une personne qui est apeurée. Parce que quand on est apeuré, on ne juge pas les choses de la même manière, on ne voit pas les choses de cette manière. Quand on est dans un état de dépression ou de semi-dépression, d'angoisse, d'anxiété, ah, dites donc, hein, tous nos sens sont modifiés, hein. Vous l'avez déjà vécu, ça? Ah ouais, c'est terrible, hein, parce que on peut avoir des réalités, il y a peut-être des choses réelles, mais souvent on les amplifie, vous comprenez? On prend les petites choses énormes, on en perd la raison, et on se dit, mais c'est terrible une chose pareille, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous dit, mais pourquoi tu t'en fais? Alors ça, ça a le don d'énerver. Hein? Mais ce n'est qu'une souris! Mais moi je vois un éléphant. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vois simplement des choses normales, et toi, tu vois une montagne. Tu en fais d'ailleurs toute une montagne. Comprenez, hein, les expressions. Mais c'est parce que ça rend malade. Ça nous met dans un état de malaise. Ça nous met dans l'embarras. Et notre vue, notre perception auditive, ce que nous entendons, ce que nous voyons les autres vivre, et ça nous rend d'autant plus malade. En ce moment, je constate, et peut-être est-il besoin que nous entendions ce message pour nous encourager aujourd'hui. Mais même parmi les frères et les sœurs, parmi les chrétiens, il y a comme une vague de dépression. Enfin, peut-être c'est exagéré ce que je suis en train de dire, mais une déstabilisation psychologique. Alors, bien sûr, en raison des phénomènes de l'extérieur, en raison du stress, en raison de la fatigue, en raison peut-être, hein, des virus qui passent et qui nous mettent quelque part, eh bien, mal. Ça, c'est sûr. Mais tout ça, c'est exploité. Alors, c'est vrai que quand une personne est apeurée, il y en a une qui se met en route, et vous le connaissez, je vous l'ai souvent dit, c'est la folle du logis. Et quand elle balaye la pièce, hein, à la fois la tête, le cœur, et puis tout ce que vous voulez, quand elle fait du nettoyage, je peux vous dire qu'elle fait voler de la poussière. Et dans la poussière, ça fait comme un brouillard, hein. Alors on suffoque, on est asphyxié, et on ne sait plus du tout où on en est. Et il y a des réponses et il y a des solutions, naturellement, et on va les voir d'ici quelques instants. Alors, on peut donc différencier la peur de l'inquiétude en disant que la peur est tournée vers l'extérieur. Il avait peur, David, parce qu'il voyait là les deux ennemis qui s'approchaient de lui. Tandis que l'inquiétude l'est tournée vers l'intérieur. Ce qui est malade, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça ce qui est malade. C'est mon cœur, c'est ma pensée, c'est ma raison, c'est mon intelligence, c'est quelquefois ma conscience. C'est ce que je me dis et que je me répète continuellement, mais c'est moi qui suis malade. Voilà. Et j'interprète ce qui se passe à l'extérieur. ça me rend malade. L'inquiétude peut être définie comme une peur sans cause valable. C'est vrai. D'ailleurs, on le dit à celui qui est inquiet en lui, mais ne t'inquiète pas. On le dit d'autant plus à des enfants de Dieu, mais le Seigneur est là. Il va t'aider, il va te secourir. Est-ce que, et je voudrais quand même vous le dire, mais est-ce que Dieu va nous laisser tomber après nous avoir sauvés et nous avoir pris? C'est nous qui allons le laisser tomber, mais c'est pas lui. Lui, il tiendra jusqu'à la fin. Nul ne me ravira de ma main, nous dit Jésus. Et ça, il faut être sûr de cela. Il faut que nous renforcions nos convictions et nos assurances dans le Seigneur. Il ne va pas nous laisser tomber. Nous, nous pouvons être infidèles, mais lui, il demeurera fidèle. Mes frères et sœurs, qui vous en faites là, eh bien, des montagnes, mais c'est pas le Seigneur qui va vous laisser tomber. Vous êtes en train d'inquisitionner en disant, mais j'ai péché cette semaine, j'ai fait ceci, je n'ai pas fait ça, etc., etc. Écoutez, vous n'êtes pas sauvés par ce que vous faites, mais vous êtes sauvés par ce que vous croyez. Et la culpabilité de ne pas avoir fait assez vous annihile complètement la force de votre foi et de la grâce qui est sur vous. Et ça, c'est malheureux. C'est terrible ça, c'est terrible. Alors, c'est comme ça que nous réagissons. Et ça nous rend malades, ça nous rend véritablement dans des états qui ne sont pas des états normaux. Les Grecs anciens décrivaient l'inquiétude, écoutez bien parce que vous allez comprendre pourquoi, et ça a un rapport finalement avec un grand principe d'unité. Les Grecs décrivaient l'inquiétude comme un ensemble de forces antagonistes, c'est-à-dire qui s'affrontent l'un l'autre, antagonistes à l'œuvre pour déchirer l'homme. L'inquiétude, c'est une déchirure de notre vie intérieure. Ouais. Entre mon cœur, ma pensée, entre mon âme et tout ce que je suis en tant que personnalité, en tant que entité. C'est une déchirure, et d'une déchirure, on appelle ça communément, pour une personne, pour une société, pour une église, on appelle ça une division. Et la division, ça ne réjouit personne. C'est un drame. La division, c'est une gangrène. La division, c'est un cancer. Et on ne peut pas être heureux. Seigneur, je viens vers toi avec un cœur tout entier. Je viens et je me donne entièrement. Il y en a un qui nous tourmente pour essayer de faire des brèches, pour essayer de miner, après qu'il ait fait finalement des brèches, pour introduire de la dynamite et nous faire exploser les uns et les autres. Le Seigneur nous veut un avec lui. Et attention, parce que il veille, il regarde, il voit s'il pouvait pas mettre une brèche, s'il pouvait pas faire une brèche et y mettre un tube de dynamite à travers nos faiblesses physiques, à travers nos faiblesses morales, à travers notre déséquilibre psychologique et spirituel, je vous dis pas, hein. Et ça rend malheureux, ça rend profondément malheureux. Nous avons deux adjectifs qui qualifient cette situation, c'est l'adjectif envieux et soucieux. Nous les utilisons souvent, avec une confusion, ce qui n'est pas du tout tout à fait exact parce qu'ils ont chacun leur sens. Celui qui est en souci est rongé intérieurement, on l'a dit il y a un instant. Et il est très préoccupé, il passe beaucoup de temps à réfléchir, à cogiter comme on le dit, et à retourner son problème, qu'il soit vrai ou qu'il soit imaginaire, dans tous les sens. Croyez-vous, mes frères et sœurs, qu'on a autre chose à faire que de se rendre malade? Est-ce que vous croyez que c'est avec notre intelligence? Est-ce que vous croyez que c'est avec toutes nos déductions, nos analyses et nos investigations propres que nous allons trouver la solution? Ne crains point, crois seulement. Tout simplement. Et on s'aperçoit que celui qui est sur cette pente, non seulement il n'a pas un problème qui est réel, mais il en a deux maintenant. Il a celui de son problème réel et il y a celui de son inquiétude qui n'en finit pas. Donc ça lui en fait deux. Un, ça suffirait, hein. C'est déjà pas mal, hein. Et on les multiplie comme ça, de plus en plus. Et nous voyons que des gens ressassent, hein. Ce sont des mots un petit peu particuliers, mais ils ressassent continuellement dans sa tête et envisagent, et là vous allez certainement vous reconnaître, et envisagent très souvent, en général, d'abord, le pire. Waouh! C'est pas possible que je m'en sorte comme ça. Ah, mais c'est... Oui! Parce que nous avons, et le diable est arrivé à faire une brèche suffisamment béante, grande, pour nous remplir d'explosifs, vous comprenez, une charge explosive pour nous faire perdre notre équilibre, que souvent dans notre nature humaine, nous sommes beaucoup plus à avoir tendance à croire au négatif qu'au positif, et même chez les enfants de Dieu. Nous avons vraiment besoin de nous tenir devant le Seigneur sans être des optimistes irréalistes et éthérés, mais néanmoins, je crois qu'il est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus confortable de vivre lorsque nous avons la joie du Seigneur en nous que de voir toujours les choses au plus noir. Vous parlez avec les gens qui sont quelquefois un petit peu déstabilisés et ils vous disent « Oh là là, vous ne pouvez pas savoir ce qui va m'arriver. » Il va vous arriver quoi ? Et ils font l'énumération de ce qu'ils craignent. Eh bien, c'est comme Job dit, ce que je crains, c'est ce qu'il m'arrive, tout simplement. Et ça, c'est la foi à l'envers. Si vous croyez que ça va vraiment arriver, que vous allez avoir une catastrophe, que cet après-midi, il va y avoir un tsunami sur Saint-Nazaire, et il va y avoir des vagues de 15 mètres de haut. Moi, j'habite au deuxième étage, j'espère pouvoir m'en tirer. Mais quand même, et il y a des gens qui ne portent les choses que véritablement au pire. Eh bien, faisons confiance au Seigneur de dire, Seigneur, le pire peut exister. Mais moi, je crois qu'avec toi, parce que je suis avec toi, ça sera quand même le meilleur. La négativité de notre esprit, de notre mentalité, de notre réflexion. L'apôtre Paul pouvait dire ceci dans 1 Corinthiens, il dirait, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. À commencer par la peur, par la crainte, par les inquiétudes et tout ça. Vous voulez la délivrance, frères et sœurs ? Pour l'air de vous en sentir beaucoup, mais enfin c'est pas grave, moi j'ai le temps, je recommence cet après-midi, et puis encore, là j'ai quelques années encore devant moi, je vais revenir, et toujours sur le même message, hein, d'accord ? Voilà. Mais envisager le pire, ça c'est le mensonge de l'adversaire, envisager le pire, surtout que nous sommes enfants de Dieu, et que Dieu veut le meilleur. Et il est fortiche, hein, pour nous mettre de la poudre dans les yeux. Étymologiquement, le mot est composé de deux racines dont l'une est liée au mot âme et l'autre au mot divisé. C'est notre âme qui est divisée, vous savez. Ouais, c'est ça. Division intérieure. Et se faire du souci, c'est donc diviser notre âme. Je me coupe en deux, en quelque sorte. Il y a les deux natures en moi, l'inquiète et la rassurée. Il y a la foi d'un côté, le doute et l'incrédulité de l'autre. Et cela, ça crée finalement un conflit intérieur, une dualité. Vous voulez vivre heureux ? Vous voulez vivre dans la paix ? Oui, 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 j'ai bien vu. Voilà, vous avez tous gagné. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'il faut choisir, hein, naturellement. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle le prophète Habacuc. Je vois que vous moussuriez ce matin, parce que vous dites, Alain, il a peut-être raison de dire ça, mais moi, où j'en suis ? Ben, suivez donc Jésus, vous allez voir. Vous allez voir. Donc je reviens à mon prophète Habacuc. Il décrit d'une manière tout à fait particulière ce qu'un homme de Dieu, un prophète, un grand prophète de Dieu, eh bien, qui était en proie aux soucis, comme David que nous avons lu tout à l'heure, quand il a su que Dieu allait amener la guerre sur le pays d'Israël. Et ça l'a complètement sidéré. Il m'a dit, mais Seigneur, c'est ton peuple. Et Dieu lui répond, oui, c'est mon peuple, mais il a péché. Il a fait tellement de choses pendant des siècles et des siècles. Maintenant, il faut qu'on mette les choses à jour et qu'on le renouvelle, qu'on les guérisse finalement de leur source de mal, parce que le mal s'était installé. Alors, Habacuc dit ces paroles, « Eh bien, j'ai entendu, et mes entrailles ont frémi quand j'ai entendu Dieu me dire que la guerre allait arriver sur Jérusalem. » Et à ce bruit, écoutez, vous allez bien voir comment il était, hein. Et c'était un homme de Dieu, mais il est passé comme David. Il nous a dit, « Mais à ce bruit, terrible, mes lèvres ont tremblé, mes os se dissolvent, et sans bouger, je frémis d'attendre le jour de la détresse. » Écoutez, on ne sait pas ce qui va arriver dans le monde, hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que il faut pas certainement avoir cette même attitude qu'Habacuc, et de dire, j'attends en frémissant le jour de la détresse. Non. Il y a autre chose à vivre. C'est la grâce que Dieu va nous donner. Et peut-être que nous pouvons voir des choses terribles dans le monde qui va arriver. Comme ceux qui ont vécu dans ce 20e siècle épouvantable et cruel et sanglant, ils ont vécu des choses épouvantables aussi, et terribles. Mais moi, je pense que Dieu est avec ceux qui lui font confiance. Alors, il le dit, hein, j'attends le jour de la détresse. Pour dire que les soucis créent une division dans nos sentiments. avec toutes les conséquences que ça peut avoir, que j'énumère rapidement, c'est que le souci, l'inquiétude, la peur, ils privent l'individu de stabilité émotionnelle. On ne sait plus où on en est rendu. Les soucis créent une division dans la pensée. On ne sait plus quoi penser et imaginer. C'est pourquoi le souci a des convictions dans les facultés de perception et il ne sait jamais de quel côté il doit se situer. Un jour il est comme ça, un jour il est d'un autre côté. Et il fait des observations, eh bien, souvent incomplètes, voire fausses. Il s'imagine des choses qui n'ont pas lieu. Les soucis créent une division au niveau du jugement. Et nous nous trompons, nous nous méprenons sur les autres. Nous pouvons juger, nous pouvons dire des choses qu'il ne faudrait pas dire sur les autres, parce que ça nous amène à être complètement faussés. Les soucis créent une division au niveau, donc, du jugement. Ils créent également la division au niveau de notre volonté. Un jour, nous prenons la décision de faire et le lendemain, nous défaisons ce que nous avons essayé de construire. C'est que nous n'avons plus de volonté. Cela crée eh bien un état de déstabilisation. Et puis le soucieux est souvent incapable de mener de ses projets à bonne fin. À peine les a-t-il commencés qu'il les laisse tomber. Oui, il ne va pas plus loin. Vous savez, Jésus nous parlera de cette parabole de celui qui construit une tour. Ben voilà. Et c'est souvent eh bien, des états qui ne sont pas faciles. Les soucis et l'inquiétude affaiblissent et écrasent l'être humain. Et quelle différence avec ce que nous dit le livre des psaumes. Un cœur calme et la vie du corps. Aujourd'hui, on relate qu'il y a beaucoup de plus en plus une augmentation de maladies psychosomatiques. Et après examen médical, on s'aperçoit que les gens, finalement, qui souffrent sur le plan de leur vie corporelle, on ne trouve rien, pas de cause. La cause, elle est à l'intérieur, c'est qu'ils sont rongés d'inquiétude et rongés par la peur, et qui ont et cela a des répercussions, finalement, sur leur être physique. Écoutez, qu'est-ce que dit David après son aventure? Comme cela nous est dépeint, parce qu'on comprend bien la personnalité de David à travers cette tempête qu'il a traversée, traverser la peur, traverser la crainte, l'effroi et toutes sortes de choses. Vous savez ce qu'il dit au bout d'un certain temps, parce que c'est Dieu qui l'a délivré. Et c'est peut-être pour mes frères et mes sœurs que vous êtes, ce matin, eh bien, d'emprunter ces paroles de David, d'en faire votre aspiration et votre désir et votre prière. Écoutez ce qu'il dit. « Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Vous êtes malheureux. Ne vous réjouissez pas parce que vous êtes malheureux, mais réjouissez-vous parce que Dieu vous délivre. J'ai cherché l'Éternel, même dans mes cris de peur et d'effroi et d'épouvante, mais je l'ai cherché quand même, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Seigneur, je ne savais pas que tu étais là, mais tu étais vraiment là. Oui, et tu es là ce matin. Alors quand on tourne les regards, finalement, vers lui, eh bien on est rayonnant de joie. C'est le prophète Ésaïe qui dira à Israël, « Mais pourquoi promenais-tu des regards inquiets ? Pourquoi regardes-tu à droite, à gauche, en te disant, mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la solution, la véritable solution, ou tu cherches encore à t'inquiéter davantage? Oui, si nos regards sont tournés vers le Seigneur, eh bien, il va nous calmer, il va nous apporter cette tranquillité d'âme, et il va nous remplir de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Je ne vais pas d'une inquiétude à une autre, je ne vais pas de mal en pis. Quand un malheureux crie, l'Éternel n'entend pas. Quand un malheureux crie ou une malheureuse, écoutez bien, je le fais à dessein, l'Éternel entend mon frère, ma sœur, mon ami qui est là. L'Éternel entendra le moindre souffle et le moindre soupir de tes problèmes d'inquiétude et tout ça. Il entend. Alors, et qu'est-ce que Dieu fait? Il te laisse dans ton état. Non, il sauve le malheureux de sa détresse. C'est merveilleux et c'est formidable. L'ange de l'Éternel, si tu dis « je suis tout seul dans ma dépression, dans mon inquiétude », mais tu n'es jamais tout seul, parce que sache que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je ne peux pas dire que je suis seul à me débattre dans mes problèmes et dans ma difficulté. Alors il campe, ça veut dire quoi camper? Ça veut dire qu'il est là à côté de moi, et il restera à côté de moi autant que j'aurai besoin qu'il reste à côté de moi pour me délivrer. Et après il me fera décamper. Il me fera décamper de cette terre de misère, de cette vie de sécheresse, de cette vie déshéritée, parce que le Seigneur veut pas que nous vivions une vie de médiocrité. C'est une vie d'abondance. Et il veut nous remplir de cette joie et de ce bonheur. Et quand on comprend ce que veut dire le terme enthousiasme, c'est que le mot enthousiasme, et je le répète, hein, ça veut dire Dieu en soi. C'est pas Dieu loin de soi, mais c'est Dieu en nous, en soi. Enthousiasme. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est pas vrai? Seigneur, tu m'as délivré de la non-vie. Tu m'as délivré de mon poison intérieur, de ma toxicité qui me ronge dans mes pensées, qui me rend profondément malheureux. Mais l'Éternel est bon. Il est merveilleux, mon Dieu. Il m'a délivré. Pourquoi t'as battu mon âme, dira David également dans le psaume 42. J'espère en l'Éternel et il me délivrera et je le louerai encore. Certains vous nouez plus? Alors il faut réparer. Parce que quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, cet Esprit du Seigneur, eh bien on loue le Seigneur. Parce qu'il est notre délivrance, il est notre refuge. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et une dernière citation que vous connaissez, ça se situe tout simplement dans Philippiens, recommandation de l'apôtre Paul, parce que lui, il en a dû en avoir des craintes. Il a dû en avoir des peurs et toutes sortes d'épouvantes, et dans le ministère qu'il accomplissait pour Dieu. Écoutez, le Seigneur est proche. Philippiens chapitre 4, le Seigneur est proche. Pourquoi dis-tu que le Seigneur est éloigné de toi, qu'il ne se tient pas? Ça, c'est dans tes impressions. Ne te fie pas à tes sentiments et tes impressions parce que elles ne sont pas bonnes. Le Seigneur est proche. Et comme si on entendait Jésus nous dire, mais ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez, c'est facile de dire ne vous inquiétez de rien. Ouais. Pourtant, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Seigneur, toi, l'ami, l'ami de minuit, l'ami de tout le temps, l'ami du jour et la nuit de la nuit, l'ami de la nuit, eh bien, Seigneur, je voudrais te remercier pour tout ce que tu m'as donné hier, tout ce que tu me donnes aujourd'hui, et tout ce que tu vas me donner demain, que je n'ai pas encore reçu, mais parce que je crois que tu vas me le donner, eh bien, je te suis reconnaissante avant de l'avoir reçu. Mettez dans votre vie de la louange et de l'action de grâce, et vous allez voir, ça va changer votre existence. Et la conséquence, et la paix de Dieu. C'est ça ce que nous avons besoin. Quand on est dans l'inquiétude, dans l'épouvante, dans la panique, on n'est pas en paix. C'est évident. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vous savez, mon intelligence, moi je peux cogiter, je peux m'évertuer à essayer de penser des choses impensables. Souvent elles sont impensables. Et Dieu me dit que son esprit, que sa grâce, que son amour, que sa force, c'est au-dessus de notre intelligence. Toute intelligence, ici-bas, sur la terre et dans le ciel, gardera vos cœurs, dites-le avec moi, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoutez, ça va? Je recommence? Non? Vous avez tout compris? Ben, comme vous faites un si beau sourire, on va remercier le Seigneur et soyez remplis de joie. Soyez remplis de paix et ne vous laissez pas voler votre quiétude parce que c'est dans le calme et le repos que sera votre force. C'est dans la tranquillité et c'est dans la foi, dans la confiance que sera votre force. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole nous aide à comprendre. En effet, Seigneur, est une nourriture spirituelle, une nourriture, Seigneur, qui garde et qui guérit nos âmes malades et malades de toute cette vie d'aujourd'hui, de notre propre tempérament qui parfois, eh bien, a cette tendance à véritablement, Seigneur, aller vers l'inquiétude plus que le repos. Seigneur, en effet, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Et je te demande de visiter, Seigneur, les uns et les autres, mes amis, Seigneur, de telle manière que véritablement leur foi soit plus forte que son contraire, c'est-à-dire le doute et l'incrédulité. Et de ne pas laisser, Seigneur, une brèche s'ouvrir de plus en plus, souvent qui, eh bien, se fait jour d'une manière imperceptible, nous ne nous en apercevons pas, jusqu'au moment où nous sommes pris dans le filet, renfermés, captivés, Seigneur, emprisonnés. Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux dire comme Paul, eh bien, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu vas nous donner cette volonté, je te demande, encore une fois de plus, eh bien de bien vouloir accepter mon cœur et ses sentiments, son affectivité. Je te demande de bien vouloir purifier ma conscience. Je te demande, Seigneur, de renfermer, de renforcer, Seigneur, ma volonté, Seigneur, pour qu'elle puisse acquiescer à la tienne en tout et partout. Je te demande, Seigneur, que tu me gardes, Père éternel, également, en effet, Seigneur, dans toutes ces dimensions, Seigneur, de mon âme, de mon cœur, de ma vie intérieure, pour que véritablement, eh bien, je puisse dire, eh bien, je louerai encore, je louerai toujours l'Éternel, mon secours et ma délivrance. Merci, Seigneur, fais du bien, le plus grand bien, et cela, Seigneur, par ton Esprit Saint. Merci, Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.